Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Vous connaissez le rendez-vous, c'est la curiosité est un vilain défaut. De 20h à 22h sur RTL. Tous les soirs, du lundi au jeudi. On parle de tout ce qui nous passe par la tête. C'est une émission de découverte. En fait, on parle d'histoire, on parle d'aventure, on parle de science.
C'est
on aime varier les plaisirs.
Mais je vais rester alors, Thomas.
Ouais,
ça
vous êtes
l'air
la
super
bienvenue.
Bien. Par exemple, au programme des ministres qui ont redressé. C'est la France. Richelieu, Achille Fould, le ministre de Napoléon III, Robert Schuman ou encore Pierre Bérégovoy. On vous raconte comment ces hommes ont, à leur époque, remis l'économie du pays sur le droit chemin. C'est en partenariat avec le magazine Historia.
Et puis tout à l'heure, donc, vous nous entendiez avec Marco à l'occasion de la sortie en France du film Ben-Hur qui a fait un flop aux États-Unis. On ressortira les plus grands bides des placards de l'histoire du cinéma. Certains sont injustes, d'autres pas. Mais tout de suite, après des semaines de polémiques sur le burkini, l'histoire du voile.
RTL.
Les déesses babyloniennes et les égyptiennes de la haute société se couvraient la tête. Les grecs et les romaines ont porté le voile bien avant qu'il ne soit adopté par des femmes juives, chrétiennes ou musulmanes.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans la tradition orientale, les cheveux de la femme sont le symbole de la fécondité et exercent sur les hommes un attrait irrésistible.
Jusqu'à 22h.
S'il faut les dissimuler, c'est dans l'intérêt des deux parties, pour protéger à la fois la femme des regards de convoitise et l'homme de l'ardeur féminine.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On va prendre un peu de hauteur dans la curiosité, ne pas revenir sur la polémique elle-même. Au contraire, on va remonter aux origines et raconter l'histoire du voile de la Grèce antique à nos jours. Bonsoir Virginie Larousse.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes la rédactrice en chef du Monde des Religions. Vous publiez un dossier de 30 pages sur le voile, dossier très documenté, très réussi. Est-ce que vous prenez parti, tiens, pour ou contre le voile islamique dans ce dossier?
Alors non, pas du tout. En fait, vous aurez remarqué que le dossier n'est pas du tout focalisé uniquement sur l'islam.
Bien sûr.
C'est vrai que depuis quelques temps, voire quelques années, on entend sans arrêt parler du voile islamique. Et quand il est question du voile islamique, on voit bien que tout le monde a sa petite idée sur la question et qu'il y a beaucoup de certitudes qui s'expriment. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de vraiment aller vraiment aux origines de l'histoire et de comprendre l'origine en fait de cette étoffe qui donc n'est pas du tout musulmane à l'origine et qui remonte quasiment à la nuit des temps. Donc nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est de brosser l'histoire du voile sur la très longue durée et à travers les différentes civilisations de l'Antiquité païenne en passant par le christianisme, le judaïsme et jusqu'à nos jours.
Alors justement, ce voile, il apparaît quand pour la première fois? Dans l'Antiquité grecque?
Alors en fait, il remonte bien avant l'Antiquité grecque. C'est vrai que dans notre dossier, on titre effectivement de l'Antiquité grecque à nos jours, mais c'était justement pour pas qu'il y ait de confusion et que les gens s'imaginent que si on titre de la Mésopotamie jusqu'au voile islamique, eh bien finalement, on en reste sur la même zone géographique du Moyen-Orient. Donc pour retracer en fait les origines du voile, effectivement, il est né a priori en Mésopotamie. Vraisemblablement, c'est quelque chose d'aussi ancien que l'écriture, puisque dès le 3e millénaire avant notre on en trouve déjà des témoignages. Notamment, on a les traces d'un texte qui relate la cérémonie de mariage d'un roi, d'une cité qui se trouve sur l'actuel pays qui correspond à la Syrie. La ville s'appelait Marie. Et il est dit qu'effectivement, ce roi, lorsqu'il s'est marié avec une princesse d'Alep, eh bien, on a recouvert la princesse de voile. Donc là, on a vraiment les premiers témoignages sur le voile, effectivement, en Syrie.
Il y a une trace très ancienne aussi dans la comédie, on a lu ça dans votre dossier du Monde des Religions, la comédie qui s'appelle Lysistrata, elle est écrite 5 siècles avant notre ère par Aristophane, elle est encore jouée aujourd'hui d'ailleurs.
Tais-toi !
Que je me taise, moi ? Devant toi, sale peste ! Alors que tu portes un voile sur la tête ? Plutôt crever !
Ah, mais si c'est mon voile qui te gêne ! Tiens, prends-le ! Voilà, mets-le sur ta tête, hein ! Mais aussi bien ta robe, prends un petit panier, puis va grignoter tes fèves en faisant ta couture. La guerre, c'est une affaire de femme.
Alors, on est donc en Grèce, à Athènes, 5 siècles avant notre ère. C'est une mention très claire au voile. Pourtant, au cinéma et dans les péplums qui se déroulent à cette époque, on ne le montre pratiquement jamais sur les femmes, ce voile.
Oui, effectivement, on ne le montre pas, tout simplement.
Elles sont très dévêtues même, à l'inverse. Pulpeuses et dévêtues en général dans les péplums.
Absolument, vous conviendrez probablement, d'ailleurs vous en parlerez dans les flops,
dans Bénure, c'est sûr.
Que effectivement, il est plus vendeur au cinéma de présenter de jeunes femmes dévêtues que des femmes qui sont réduites à des silhouettes fantomatiques et sous d'épaisses carapaces de tissu.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de tabou que les historiens ont entretenu de génération en génération?
Alors si, effectivement...
Qu'il y avait un voile, pardon, je vous interromps, dire qu'il y avait, que les femmes portaient le voile dans Athènes, berceau de notre démocratie, ça n'allait pas, c'est ça?
Ça n'allait pas. Alors il faut tout de même savoir que l'histoire en fait du genre et des sexes dans l'Antiquité, c'est quelque chose d'assez récent finalement, ça date des années 1970, et qu'à l'époque, les historiens antiquisants avaient bien remarqué que les femmes étaient voilées, mais il y avait effectivement une sorte de tabou. Il faut dire que ça correspondait grosso modo historiquement à la montée de l'islamisme, et donc parler de voile, c'était connoté de manière politique et c'était gênant. Et donc les historiens à l'époque employaient d'autres termes, ils parlaient de châle, de tissu pour évoquer ce voile. Et puis finalement, un historien britannique, on va dire, a pris le taureau par les cornes et il s'est dit, il faut vraiment appeler un chat un chat. Les femmes grecques dans l'Antiquité étaient voilées et effectivement la société grecque était particulièrement misogyne. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne et qui choque, puisqu'on a l'idée qu'à Athènes, c'est vraiment l'âge d'or de la démocratie, et puis c'est notre civilisation mère, donc on est un peu gêné de voir que les femmes étaient voilées. Mais effectivement, c'est un fait historique avéré.
Il était codifié d'ailleurs, ce port du voile dans la Grèce antique?
Oui, il est codifié, il existe différents types de voiles qui sont plus ou moins envahissants, on va dire, imposants.
Qui se portent quoi? Selon les femmes?
Alors oui, alors en fait le
les occasions de la vie quotidienne.
Le voile dans l'Antiquité grecque ne concerne finalement que les femmes libres, c'est-à-dire celles qui ne sont pas esclaves ni prostituées, donc ça concerne des femmes plutôt de haut rang. Alors l'idée, c'était que justement, dans la mesure où l'espace public était réservé plutôt aux hommes ou aux femmes de mauvaise vie, eh bien, porter un voile, c'était un moyen pour les femmes de noble extraction.
De se soustraire au regard des autres?
Au regard des autres, d'aller à leurs occupations librement, sans craindre le qu'en dira-t-on, et finalement, du coup, d'accéder à l'espace public.
Virginie Larousse, on va découvrir, on a du temps, hein, grâce à RTL, pour aller au fond des sujets, et on va découvrir que des hommes ont porté le voile au fil des siècles, notamment dans cette Grèce antique, lors des cérémonies d'obsèques. Qu'est-ce qui se passait en cas de décès? Le voile changeait de tête?
Absolument. En fait, la cérémonie de deuil et la période de deuil, j'ai envie de la comparer finalement au carnaval dans l'Occident chrétien, c'est-à-dire qu'on assistait à une inversion complète des genres. C'est-à-dire que pour l'occasion, les hommes se laissaient pousser les cheveux et effectivement se voilaient, alors que les femmes, elles, se coupaient les cheveux et, pour une fois, ne portaient plus le voile. Donc c'est l'occasion d'un retournement de situation qui marque finalement le fait que le deuil bouleverse la société et qu'à ce titre, concrètement, ce bouleversement est manifesté par ces changements de pratiques qui sont effectivement un peu étranges.
Le voile n'a donc pas toujours été musulman, loin de là, il a été grec, puis chrétien. C'est d'ailleurs l'un des apôtres qui l'a imposé aux premières femmes disciples de Jésus. A tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité sur RTL pour découvrir l'histoire du voile. Il fait la une de l'actualité. Il alimente les polémiques en France depuis des années. Mais d'où vient-il? Est-il réservé à la religion musulmane? Notre invitée Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions, répond à toutes nos questions. Virginie Larousse, pendant tout l'été, il a fait l'actualité. Je veux parler du burkini, évidemment.
À la piscine de Beausoleil à Douai, on n'avait jamais vu ça. La jeune femme a fait des longueurs dans une sorte de combinaison large surmontée d'un voile en plastique. Jackie Lasvaux, adjoint au sport de la mairie, lui, n'en revient pas.
Je lui ai dit, écoutez, allez-y, on verra après. Moi, je pensais que c'était un maillot de bain sensiblement identique à le maillot de bain occidental, quoi, voilà.
En réalité, la baigneuse est donc couverte de la tête aux pieds. Elle vient d'investir dans un burkini, un maillot de bain approuvé par la loi islamique, une tenue pas vraiment réglementaire. Du côté de la mairie, on veut éviter la polémique. Plutôt que de laïcité, on parle donc de règles d'hygiène. Et le burkini risque de refaire parler de lui. En 2009, déjà, il s'était fait bannir d'une autre piscine en Seine-et-Marne.
Virginie Larousse, le burkini, est-ce qu'il est utilisé seulement par des musulmanes ?
Alors, bon, déjà, le burkini, c'est quelque chose qui n'est pas quand même très répandu, même si on en a beaucoup entendu parler cet été.
Et qui est récent ?
Qui est très récent. En fait, c'est une création qui date de 2003. C'est une Australienne d'origine libanaise qui l'a créée en 2003. Mais c'est vrai qu'en France, jusqu'il y a 2-3 ans, on ne le voyait pas ni sur les plages ni dans les piscines. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène récent. Alors, est-ce qu'il est réservé aux seules musulmanes ? Disons, dans son immense majorité, oui. Même si j'ai pu lire ça et là que des personnes non musulmanes peuvent être intéressées par ce produit. Par exemple, les gens qui sont allergiques au soleil ou certaines femmes qui sont très complexés physiquement et qui n'ont pas envie de se dénuder, mais globalement on peut dire que ça concerne des musulmanes et des musulmanes, on va dire, qui sont très minoritaires.
Virginie Raoult, quand on dit voile aujourd'hui, on pense immédiatement voile islamique. Historiquement, quelle est la première religion à avoir imposé ou proposé, on va dire les deux termes, le voile aux femmes ?
Alors, le voile, dans un cadre religieux, existait déjà dans l'Antiquité païenne. Il concernait aussi bien les hommes que les femmes. Par exemple, les Grecs, lorsqu'ils faisaient certaines liturgies, pouvaient effectivement être amenés à se voiler, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais c'était quelque chose d'extrêmement minoritaire et surtout, ça concernait à la fois les hommes et les femmes. La première religion qui a vraiment, légiféré et rendu obligatoire le voile pour les femmes, c'est le christianisme.
Ça surprend beaucoup de nos auditeurs. Moi, j'ai été étonné en lisant votre dossier du Monde des Religions.
Oui, c'est marrant de voir, parce que pourtant, c'est quelque chose d'assez récent encore dans notre société. Il faut savoir que jusque dans les années 1950-1960, les femmes se voilaient pour aller à la messe. Et je vais vous faire une confidence. Ma grand-mère a 100 ans et il ne lui viendrait pas à l'idée d'aller à la messe sans mettre un fichu sur sa tête.
Alors, pour quelles raisons on demandait aux femmes chrétiennes de se voiler ?
Alors, donc, il faut savoir que Paul, donc l'apôtre Paul, était un juif qui vivait dans un contexte très marqué par la culture grecque. Et lorsqu'il a eu cette révélation et qu'il est devenu, on va dire, chrétien, entre guillemets, avant l'heure, eh bien, donc, il a évolué dans cette culture à la fois juive et grecque, et il a estimé que les femmes devaient, pour prophétiser et pour prier dans les assemblées, se voiler la tête et que c'était une manière finalement de montrer leur soumission à la fois aux hommes et à l'Église. Et là, il est très clair, il dit ça dans l'Épître aux Corinthiens, c'est vraiment la marque pour la femme de sa soumission à l'homme et à l'Église, tandis que l'homme, lui, doit prier au contraire découvert, il ne doit pas se couvrir la tête, puisque lui, son chef, c'est le Christ, et la manière de lui rendre hommage finalement, c'est de se découvrir. Donc on a une inversion.
Misogynie là-dedans.
Alors c'est vrai que Paul est souvent perçu comme un apôtre misogyne, parce qu'effectivement ce texte a énormément gêné, d'autant qu'on a un autre texte où il dit que les femmes ne doivent pas interrompre pendant les assemblées et que si elles veulent effectivement s'informer sur la religion, eh bien qu'elles le fassent en interrogeant leur mari à la maison. Donc Paul a effectivement souvent cette réputation de misogynie. Pour autant, les textes de Paul sont beaucoup plus ambivalents et probablement beaucoup plus complexes, et sur certains points, il a été totalement avant-gardiste en disant, par exemple, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Et donc, en disant cela, on voit bien clairement que c'est quelque chose de plus compliqué qu'une simple misogynie.
Il a pris d'autres formes ensuite pour les chrétiennes dans les décennies, les siècles suivants. Ce voile ?
Alors, ce voile, finalement, est resté, a perduré très longtemps, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est vrai que jusqu'aux années 1950-1960, on voyait encore les femmes, notamment en France, voilées dans les églises. Cette pratique a été abandonnée, ou en tout cas, il n'y a plus d'obligation pour les femmes chrétiennes de se voiler depuis le Concile Vatican II, dans les années 1962-65. L'Église a cherché à se moderniser et donc a permis aux femmes de ne plus être voilées. Donc ça, c'est pour l'Église occidentale. Il faut savoir qu'en Orient, beaucoup de chrétiennes se voilent encore, et notamment la jeune femme qu'on voit sur la couverture de notre numéro sur le voile. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'une musulmane. Or, en fait, c'est une copte égyptienne, donc une chrétienne. Les coptes portent encore le voile, de même, par exemple, que les Libanaises maronites ou que, effectivement, d'autres courants du christianisme oriental.
Le voile existe depuis des millénaires. Il n'a pas toujours été musulman, mais depuis quand l'islam s'en est-il emparé ? Le Coran parle-t-il beaucoup du voile ? Réponse tout de suite sur RTL et Curieux.
Comme vous, ils sont curieux. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 22h, vous écoutez RTL.
était elle.
Moi, je dis, en quoi suis-je moins digne, moi, Mélanie, voilée qu'une femme nue dans une pub pour un podium?
J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Pas envie de mentir, on est mieux chez les mômes. À force de vieillir, on finit par être chiant.
De quel droit elle aurait le droit d'être toute nue? Et moi, j'aurais pas le droit de le couvrir mon corps. C'est tout ce que je demande.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors je veux rajeunir, bienvenue chez Peter Pan.
La liberté d'être soi-même.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mélanie Diams, qui aujourd'hui défend le voile dans les interviews qu'elle peut donner dans les médias. On vous raconte l'histoire du voile ce soir sur RTL avec la rédactrice en chef du Monde des Religions, Virginie Larrouze. Je rappelle que vous publiez un dossier de 30 pages sur ce thème dans votre numéro de rentrée. Alors depuis tout à l'heure, le voile, on en parle sérieusement dans la curiosité. On peut, et je suis convaincu, qu'il faut aussi en rire, comme l'humoriste Nadia Rose.
Alors le voile, c'est comme la mini-jupe. Si on voit tes poils, c'est que c'est trop court.
Alors ça, c'est dans un sketch, évidemment, c'est très drôle. Le voile, c'est comme la mini-jupe. Quand on voit les poils, c'est que c'est trop court. Moi, je l'ai entendu au Marrakech du Rire. Et je peux vous dire que c'était assez osé de balancer ça dans ces circonstances-là. Alors, le voile, on dit voile, on va parler du voile islamique maintenant. Ça, et on le découvre dans votre dossier du Monde des Religions, ça, il y a évidemment énormément de voiles différents. On va essayer de s'attacher au sens des mots. Le mot hijab, par exemple, qu'est-ce que c'est comme voile et qu'est-ce que ça signifie, ce mot?
Alors nous, c'est vrai que dans le contexte contemporain courant, quand on parle de hijab, on fait référence au voile qui ne laisse apparaître que l'ovale du visage, qui est le voile finalement le plus répandu qu'on voit dans l'espace public.
Et qui cache plus ou moins les cheveux en fonction de la façon dont la jeune femme le
voilà,
porte.
Voilà, c'est un voile qui est assez simple, qui n'est pas très, très enveloppant. Mais il faut savoir que dans le Coran, le hijab ne fait pas du tout référence à un voile. Hijab, en arabe, ça veut dire le rideau. Et en fait, dans le Coran, à chaque fois qu'il est question de hijab, cela fait référence à un rideau qui, dans un espace domestique, sépare finalement l'espace des hommes et l'espace des femmes, en particulier dans la maison du prophète.
Ça veut dire qu'on ne parle pas de voile dans le Coran, c'est ce que vous êtes en train de dire?
On parle de voile dans le Coran, mais il ne s'appelle pas hijab, il s'appelle kimar. Et le kimar, en l'occurrence, c'est un foulard qui est beaucoup plus léger. Et certaines féministes musulmanes, à l'heure actuelle, justement, s'insurgent contre le terme de hijab qu'on emploie à tort et à travers, y compris dans les pays arabes, bien sûr, c'est le terme qui prévaut. Parce que pour elles, finalement, parler de hijab, ça induit une séparation de l'espace féminin et masculin, comme si les femmes devaient être exclues de l'espace public et donc tenues de porter un hijab pour pouvoir apparaître dans l'espace public. Alors que le terme de kimar, finalement, n'inclut pas du tout cette distinction publique-privée et n'induit pas que les femmes ne doivent pas, n'ont pas vocation à être dans l'espace public.
Mais je vais reprendre la question de Sidonie. Est-ce que le voile est très présent, omniprésent dans le Coran?
Alors omniprésent, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour tout vous dire, le Coran compte à peu près 6300 versets, et sur ces 6300 versets, eh bien, il y en a 4 ou 5 qui concernent le voile. Donc on ne peut pas dire que ce soit une obsession coranique. C'est certain que le voile n'est pas un pilier de l'islam. Il y a des recommandations à porter le voile dans le Coran, ça on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit quelque chose d'obsessionnel et un impératif majeur dans la religion musulmane.
Alors il apparaît quand justement l'usage de ce voile dans la religion musulmane, dans l'histoire des musulmans ?
Alors dans l'histoire des musulmans par exemple, on ne sait pas vraiment si les femmes de Mahomet étaient voilées ou non. C'est quelque chose d'assez flou, les sources ne concordent pas sur cette question. Le voile apparaît rapidement, il faut savoir que même si le Coran en parle assez peu, et bien très rapidement les théologiens et les hommes de pouvoir se sont emparés de cette question pour toujours produire une législation plus importante incitant les femmes à se couvrir, et c'est de cette manière que le voile finalement a pris l'importance qu'on lui connaît et est constamment mis sur le devant de la scène.
Mais il y a toujours un paradoxe avec le voile dans l'islam ou auparavant, on parlait de la religion chrétienne tout à l'heure à l'époque de l'apôtre Paul, donc il y a très longtemps, il y a toujours ce paradoxe, il protège et il enferme la femme.
Absolument, le voile finalement dans le Coran, on invite les croyantes à le porter pour justement leur permettre d'accéder à l'espace public sans être inquiétées, mais en même temps c'est effectivement une manière de les dissimuler, et quelque part c'est à la fois oppressant tout en étant émancipant d'une certaine manière dans ces sociétés qui étaient très patriarcales.
Le voile qui est revenu en force dans de nombreux pays musulmans, pourtant dans les années 50-60 il était minoritaire, c'est ce qu'on va vous raconter dans un instant sur RTL, restez avec nous.
Alors le voile, c'est comme la mini-jupe. Si on voit tes poils, c'est que c'est trop court.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité sur RTL de découvrir l'histoire du voile grâce à notre invitée Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions, qui publie un dossier très éclairant sur ce thème. On est très loin des polémiques de ces dernières semaines et grâce à vous, ça fait du bien, on prend de la hauteur dans la curiosité. Thomas le disait, le voile est devenu un symbole important de l'islam. Il a été adopté très tôt par la communauté musulmane et il a disparu et il est revenu en force dans de nombreux pays musulmans. Il était minoritaire dans les années 50-60, exemple en Égypte. Écoutez ce discours du président Nasser, il date du milieu des années 50. Il raconte un rendez-vous avec le leader des frères musulmans qui lui a demandé d'imposer le voile aux Égyptiennes.
Monsieur, vous avez une fille à la faculté de médecine et elle ne porte pas le voile. Voilà ce que Nasser dit au leader des frères musulmans. Pourquoi ne pas l'obliger à le porter ? Si vous, vous n'arrivez pas à faire porter le voile à une seule fille qui de plus est la vôtre, comment voulez-vous que je le fasse porter à 10 millions de femmes égyptiennes ?
Alors Nasser qui se moque des frères musulmans, les femmes voilées étaient rares dans les rues du Caire, mais aussi de Kaboul ou de Marrakech à l'époque ?
Et oui, il faut savoir qu'il y a eu toute une période où finalement on est passé au dévoilement. Après le voilement est venu l'âge du dévoilement. Et que ça a d'abord concerné les élites, on va dire les élites urbaines. Hein. Mais peu à peu, ça s'est effectivement étendu à d'autres catégories socio-professionnelles. À tel point que, comme vous le dites, dans les années 50, eh bien, le voile avait, on ne va pas dire disparu, ce serait excessif. Mais en tout cas, il était beaucoup moins présent dans ces sociétés.
Mais c'est une décision des hommes ou c'est l'aboutissement d'un combat féministe ?
Alors c'est tout le problème, c'est que beaucoup de féministes notamment s'étaient battues pour qu'enfin on leur enlève ce voile et donc forcément dans ce cadre elles étaient satisfaites, mais il faut tout de même savoir que beaucoup de femmes, en particulier les femmes du peuple, n'étaient pas du tout favorables à ce mouvement de dévoilement qui finalement leur a été imposé par des hommes, comme c'est souvent le cas, et que ça a été très mal vécu parfois dans certains pays musulmans. Du coup on peut comprendre que le revoilement est revenu quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, par retour de bâton.
Il y a un balancier de l'histoire, on verra bien où il nous mène dans les prochaines décennies. Il y a des hommes aussi dans votre dossier sur le voile.
Les hommes voilés ?
Des hommes voilés. Il y en a encore aujourd'hui, bien sûr. Il y a les sikhs, moi je pense aux sikhs. Alors c'est un turban, mais bon.
Oui, enfin c'est un turban qui ressemble à un voile. Oui. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas jouer sur les mots. Mais ce qui nous a le plus frappé et probablement le plus inattendu, c'est que finalement dans la Bible, le personnage voilé par excellence, eh bien c'est un personnage qui représente vraiment la virilité, à savoir que c'est Moïse. Et ça, c'est vrai que ça a été pour nous une grande découverte. C'est quelque chose de très surprenant.
Mais il est voilé comment ? De quelle manière, à quelle occasion ?
Alors à quelle occasion, en fait, c'est que Moïse est allé rencontrer Dieu dans le Sinaï pour récupérer les secondes tables de la loi. Et lorsqu'il est redescendu du Sinaï après avoir vu Dieu, eh bien son visage irradiait totalement. Il faut savoir que dans la conception juive, en fait, il y a l'idée qu'on ne peut pas voir Dieu sans et continuer à vivre. En fait, le divin, c'est quelque chose de tellement puissant que finalement ça entraîne la mort. Et Moïse ayant vu Dieu, finalement, il a récupéré, on pourrait dire quelque part, ces parcelles presque radioactives de sacré qui le rendaient presque dangereux à l'approche de sa communauté lorsqu'il est allé rejoindre les siens. Et donc, sa communauté lui a demandé de se voiler parce que sa vision était insupportable. Et donc, de ce fait, dans la Bible, c'est Moïse qui se trouve voilé et non une femme comme on pourrait s'y attendre.
Que dit la religion juive, tiens, à propos du voile ?
Alors, la religion juive est assez différente de ce qui se passe par rapport, par exemple, aux voisins grecs ou mésopotamiens, puisque dans la Bible, quand on regarde, en tout cas dans l'Ancien Testament, on voit bien que les femmes n'avaient pas coutume d'être voilées. On le voit à travers des épisodes, par exemple, lorsque Abraham se trouve en Égypte avec sa femme Sarah, et qu'il dit à Sarah, « Dis au Pharaon que tu es ma sœur », parce qu'il savait Sarah tellement belle que ça allait lui attirer des ennuis avec le Pharaon qui allait vouloir récupérer récupérer sa femme. Et donc, on voit là qu'elle n'était pas voilée, sinon la question de sa beauté ne se serait pas posée. Donc, les femmes juives, a priori, n'étaient pas voilées, sauf au moment du mariage, où effectivement, elles revêtaient un voile et elles se voilaient donc devant leur mari, mais c'est quelque chose de ponctuel. Et puis après, le peuple juif étant un peuple de diaspora et d'exil, finalement, les juifs ont adopté souvent les mêmes coutumes que leurs voisines, et notamment les juifs d'Afrique du Nord, souvent étaient voilés.
Alors, je découvre aussi dans votre dossier du monde des religions que les prêtres de l'Église catholique romaine, d'une certaine façon, étaient voilés, se sont aussi cachés les cheveux, en tout cas.
Oui, les cheveux, c'est toujours quelque chose de toute façon très problématique dans les religions. Hein. Ça pose beaucoup de problèmes. c'est vrai que les abbés, par exemple, et les évêques revêtaient une coiffe qu'on appelle la mitre, et qui a deux pans, en fait, de part et d'autre des oreilles, qui symbolise en fait l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc là, c'est une forme de voile, on peut dire.
Et la calotte ? La calotte, tiens, je pense à la calotte que portent les évêques, la calotte violette.
Violette, si voilà.
Quelle est sa signification ?
Alors, la calotte violette, elle ressemble d'ailleurs beaucoup à la kippa juive. Oui. Elle symbolise, en fait, le violet symbolise la tempérance, qui est censée être une vertu très importante pour les évêques. Et donc, à chaque fois, les couleurs ont un sens. En fait, rien n'est fait au hasard pour ce genre de symbole.
Merci beaucoup. Merci, Virginie Larousse. Votre dossier est très complet. Il y a 30 pages sur l'histoire du voile, de la Grèce antique à nos jours. Et c'est vraiment une lecture importante, à notre avis. C'est pour ça qu'on a voulu vous inviter. Et ça permet de prendre un peu de hauteur après les polémiques de ces dernières semaines. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.